Bonjour, mon nom est Chantal Henry. Bienvenue à l'émission D'ici d'ailleurs, un voyage sonore à la diversité culturelle. Ensemble, nous allons découvrir la diversité et les cultures du monde présentes à Drummondville. Notre sujet cette semaine est l'immigration humanitaire à Drummondville. Et nous recevrons en entrevue M. Luc Martel, agent de développement région Centre du Québec, du ministère de l'Immigration et des communautés culturelles du gouvernement du Québec. Drummondville est aujourd'hui reconnue comme étant une ville d'accueil pour les réfugiés. L'histoire débute cependant en 1956 quand une vingtaine de familles hongroises est venue s'installer à Drummondville suite au conflit avec la Russie. À cette époque, les services gouvernementaux et communautaires pour l'accueil des réfugiés, comme on les connaît aujourd'hui, n'existaient pas à Drummondville. Ce sont donc des familles drummondvilloises qui les ont aidées à s'établir. À la fin des années 70, l'histoire se répète. Drummondville reçoit une vague importante d'immigration humanitaire, de boat people, ou réfugiés de la mer. Mais cette fois-ci, le travail fait par les bénévoles a laissé des traces. Les structures créées pour accueillir et installer ces réfugiés ont donné naissance à une organisation, le regroupement ethnique Drummond. Organisme qui, avec le temps, a évolué et a pris le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui, regroupement interculturel de Drummond. Depuis sa création, le RID, le regroupement interculturel de Drummond, a continué à accueillir les réfugiés à Drummondville, dont des gens de l'ex-Yougoslavie, la Colombie et l'Irak, qui sont aujourd'hui trois des communautés les plus importantes. L'immigration humanitaire. Mais qu'est-ce que c'est, cette fameuse immigration-là? Ça l'inclut quel type de personnes? C'est de ça qu'on va parler notamment dans l'émission cette semaine et pour en apprendre plus sur le sujet, voici le zoom sur la question de la semaine.
L'octroi d'asile à des personnes venues de terres étrangères pour échapper aux persécutions est l'une des coutumes les plus anciennes de l'humanité. Des textes écrits il y a plus de 3500 ans y font référence, par exemple à l'époque des grands empires du Moyen-Orient comme les Siites, les Babyloniennes, les Assyriennes et dans l'Égypte ancienne. Plus de 3000 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, les délégués de 26 pays, aussi divers que les États-Unis, l'Israël et l'Irak, se sont réunis en Suisse, dans la ville de Genève, en 1951, pour créer le premier accord international à mettre en place des dispositions sur les aspects essentiels de la vie d'un réfugié. À ce moment, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui venait tout juste d'être créé, est devenu le gardien de la Convention. 51 ans après son adoption, la Convention demeure la pierre angulaire de la protection internationale. Elle a inspiré les textes des conventions régionales pour la protection des réfugiés et elle a permis au Haut Commissariat pour les réfugiés d'aider quelques 50 millions de déracinés dans plus de 110 pays partout dans le monde.
Et pour nous dire comment se passe l'immigration humanitaire à Drummondville, nous avons invité Luc Martel, agent de développement région Centre du Québec, du ministère de l'Immigration et des communautés culturelles du gouvernement du Québec. Monsieur Martel est à l'emploi du MIC depuis maintenant 1999. Il est le lien entre les organismes publics et privés qui travaillent avec les personnes immigrantes. Monsieur Martel siège sur un comité qui a pour mandat de voir à la répartition des réfugiés au Québec et sur un autre comité qui a défini et implanté le programme d'accompagnement des nouveaux arrivants. Bonjour Monsieur Martel, bienvenue à l'émission.
Bonjour Madame Henry.
D'entrée de jeu, pourquoi parle-t-on d'immigration humanitaire et qu'est-ce qu'un réfugié?
Ben, un réfugié, il y a une définition que j'ai trouvée sur Internet qui est peut-être la plus connue, qui est celle qui est définie par la Convention de Genève, où on dit que c'est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou lequel à sa résidence habituelle, qui craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de la dite crainte. Donc, c'est quelqu'un, on comprend, qui, pour toutes sortes de raisons sociales, politiques, décide de quitter son pays. Il y a une guerre, elle est oppressée, elle est en détresse, et elle ne veut pas y retourner. Donc, ça devient donc un réfugié.
Mais comment qu'on détermine qu'une personne est considérée comme un réfugié? Jusqu'à quel point on peut déterminer finalement que cette personne-là est en danger?
Bon, en fait, il faut remonter à la création du Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU. En 1950, et l'année suivante, on a élaboré la Convention de Genève. Et il y a une portion de la Convention de Genève où on s'attarde à la protection de la population. Donc, il y a maintenant 118 pays qui... l'ONU intervient plutôt, le commissariat intervient dans 118 pays. Il y a plusieurs pays signataires, dont le G8 et la Chine aussi. Et ces gens-là conviennent, à partir de la définition, qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de protection, et là, on intervient pour les secourir. Donc, des gens qui peuvent être ou dans un camp de réfugiés, ou encore déplacés même à l'intérieur de leur propre pays. Donc, l'ONU, à partir des conflits qu'on retrouve un peu partout sur la planète, est en mesure de dire, oui, voilà, dorénavant, on pourrait protéger cette population-là, compte tenu du conflit qui est inhérent à une situation politique, ou à une situation militaire, ou une oppression quelconque, là.
Quelles instances sont impliquées dans le processus de sélection des réfugiés? Vous venez de nous en parler, notamment avec la Convention de Genève. Plusieurs acteurs doivent être impliqués là, dans ce processus-là.
Ouais, il y en a effectivement plusieurs. Partons des données quantitatives. Il y a environ 9 millions de réfugiés dans les camps actuellement. Donc, les camps sont supervisés par le Haut Commissariat des réfugiés à l'ONU. Par ailleurs, au Canada, il y a le gouvernement canadien qui, lui, détermine dans quel bassin il va aller chercher des réfugiés pour les accueillir au Canada. Et le Québec consulte le gouvernement canadien pour déterminer quels sont les réfugiés qui viendront au Québec. Il faut remonter, peut-être pour préciser, à l'accord Canada-Québec que le Québec a signé avec le fédéral en 1991. Et dans cet accord-là, le Québec s'entend pour accueillir un certain nombre de réfugiés qui est déterminé là, en lien avec sa population, au prorata de la population canadienne. Donc, si on arrondit, rentre à peu près 12 000 réfugiés par année au Canada et 2 000 viennent au Québec, environ 2 000. Bon an, mal an, parfois 1900, parfois 2 000, parfois 2500, mais environ 2 000 annuellement au Québec. C'est ce qu'on appelle des réfugiés sélectionnés par le Québec, mais admis par le gouvernement canadien, parce que le Québec a le pouvoir de sélectionner, mais la décision finale appartient au gouvernement canadien. Donc, dans l'accord Canada-Québec, le Québec accueille donc 2 000 réfugiés qui sont répartis un peu partout au Québec, dans certaines villes de destination.
Est-ce que le gouvernement a des accords avec d'autres provinces, comme le gouvernement du Canada a d'autres accords avec le gouvernement de d'autres provinces, comme il l'a avec le Québec?
Pas nécessairement de la même façon. Le Québec a un accord qui est très, très large, qui consiste à sélectionner l'immigration économique, qui est peut-être, pas peut-être, mais c'est la portion la plus importante des immigrants qui rentrent au Québec. Et à tous les trois ans, le Québec, d'ailleurs, fait une commission parlementaire sur les niveaux d'immigration. Donc, c'est une démarche très démocratique, hein, l'immigration au Québec. La population est invitée à déposer des mémoires à tous les trois ans à la commission parlementaire en immigration et à se prononcer sur les niveaux d'immigration suggérés. Est-ce qu'on va maintenir l'immigration? Est-ce qu'on va la diminuer? Est-ce qu'on va l'augmenter? Donc, à tous les trois ans, on peut, comme citoyen, comme organisation, déposer un mémoire et aller même le présenter à la commission parlementaire qui est composée des représentants de différents partis politiques au Québec et présidée par le ministre en poste. Et là, on suggère par la suite à l'Assemblée nationale le scénario. Donc, est-ce qu'on va maintenir, comme je disais, diminuer ou augmenter? Et c'est l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale qui se positionnent quant au niveau d'immigration qu'on accueillera au Québec. Et les niveaux d'immigration incluent toujours cette portion de réfugiés-là. Donc, c'est important de comprendre ça, cette démarche démocratique-là, que c'est pas une décision qui est prise de façon très isolée dans un bureau par la ministre. Il y a une consultation, les citoyens sont interpellés et on peut donner notre position là-dessus. Et évidemment, l'idée, depuis quelques années, c'est toujours d'augmenter l'immigration et là, on tombe évidemment dans toute la question des besoins de main-d'œuvre, la question démographique. Le Québec est en décroissance, serait en décroissance s'il n'y avait pas eu d'immigration au cours des dernières années. Et les pronostics nous disent que dans quelques dizaines d'années, on connaîtra probablement une décroissance. Donc, il faut augmenter le renouvellement de la population, augmenter le seuil de renouvellement, parce qu'à 2,1 enfants par femme, on peut renouveler la population. Donc, voilà, c'est un peu la façon dont ça fonctionne et c'est là où on détermine aussi le fait qu'on accepte qu'on va accueillir 2 000 réfugiés au Québec.
Quand Quand le gouvernement du Québec a-t-il décidé de s'impliquer dans l'immigration humanitaire? Tout à l'heure, vous nous avez parlé qu'il y avait une entente signée avec le Canada. Est-ce que c'est à partir de ce temps-là que le gouvernement du Québec a décidé de s'impliquer dans cette immigration humanitaire?
Ben, historiquement, et je pense que vous en avez parlé à l'introduction, le Québec a accueilli des réfugiés depuis plusieurs années. Rappelons-nous des réfugiés, ce qu'on appelait des boat people, les Vietnamiens, arrivés au Québec dans les années 70. Et là, de façon très volontaire, les paroisses, les municipalités ont dit « Nous, on veut accueillir des immigrants, des réfugiés vietnamiens chez nous. » Et ça s'est fait vraiment d'une façon très spontanée, très volontaire, de façon très, je dirais même, très charitable. Les gens ont dit « Oui, on est prêts, on veut y aller. » Et je dirais sans grand moyen à l'époque. Alors que maintenant, depuis l'accord Canada-Québec en 91, le Québec est beaucoup mieux, organisé en matière d'accueil et d'installation, parce qu'il y a des ententes de signer avec des organismes partenaires maintenant, dont vous faites partie, le Regroupement interculturel de Drummond, avec différents partenaires au niveau de la francisation, des partenaires pour l'intégration en emploi. Donc, il y a une série de moyens qui ont été développés pour accueillir la totalité des immigrants, qu'ils soient réfugiés ou non. Mais on comprend souvent que les réfugiés ont besoin de plus grands services compte tenu de différentes problématiques. Rappelons-nous que, pour la plupart, ils ont connu une grande détresse dans leur pays ou dans le camp de réfugiés dans lequel ils ont vécu. C'est pas écrit dans le front des gens, ça, qui sont réfugiés. On les voit, ils passent sur la rue, c'est un immigrant. Les gens vont dire « Ah, ben, je l'entends parler, oui, je pense que c'est un immigrant. » Mais je pense que la plupart des gens se posent pas la question si c'est un réfugié ou non. On se dit « Ben voilà, c'est une personne immigrante. » Quand un employeur embauche un réfugié, il se pose pas la question si c'est un réfugié. Il comprend que ça peut être une personne immigrante arrivée au Québec depuis peu de temps. Mais il a besoin de quelqu'un et cette personne-là correspond aux compétences dont il a besoin. Les employeurs font pas ça par charité. Un employeur embauche un travailleur parce qu'il en a besoin. Et si l'immigrant correspond à ses besoins, ben tant mieux. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que les réfugiés qui arrivent ici, comme je disais, ont vécu des grandes détresses, des problèmes humanitaires, des problèmes militaires, mais ils ont un grand désir de s'intégrer. Et je disais que les besoins sont souvent plus grands pour les accompagner. Effectivement, il peut y avoir des traumatismes qui sont pas sortis de l'arrivée, qui peuvent sortir 2 ans, 3 ans après, quand on a perdu un père, une mère, un frère, une sœur assassiné dans une situation militaire. Mais ça se peut qu'un jour, on se lève un matin et puis que ça aille pas très bien parce qu'on... ça vient de nous revenir en pleine face et on pensait l'avoir évacué, mais c'est pas tout à fait fait. Alors donc, on a évidemment une collaboration du réseau de la santé pour ce type de situation-là et puis de d'autres réseaux aussi, là.
Et maintenant, nous vous laissons le temps d'une courte pause. Au retour, je continue mon entretien avec notre invité de la semaine.
Question: quelle est la définition du blues? Réponse: tous les lundis soirs, 19h au 88,9. Pour l'heure du blues, oh yeah! Le rhythm and blues sous toutes ses formes. Soyez-y!
CJRD.
Nous sommes de retour de notre courte pause avec notre invité de la semaine, M. Luc Martel, agent de développement région Centre du Québec du ministère de l'Immigration et des communautés culturelles du gouvernement du Québec. Lorsqu'on regarde, bon, la planète est grande, donc on se demande, mais pourquoi le Québec est-il une terre d'accueil finalement pour ces personnes immigrantes, ces réfugiés?
Bien, comme je le disais tout à l'heure, le Canada a signé la Convention de Genève, donc le Canada accepte d'accueillir des réfugiés et le Québec a signé son accord avec le fédéral. Donc, on va déterminer, évidemment, selon certains facteurs, là, on va déterminer si oui ou non on peut accueillir tel ou tel type de réfugiés. Il y a toute la question de capacité d'accueil. Hein. Quand on décide d'accueillir des gens chez soi, est-ce qu'on est capable de les accueillir? Est-ce qu'on a du logement de disponible sur le territoire? Est-ce qu'on a de l'emploi disponible sur le territoire? Est-ce qu'on a des services de santé, des services d'éducation disponibles? Alors, tout ça tient compte de la capacité d'accueil qui fait qu'on dit oui, maintenant on peut y aller, on peut donc accueillir des immigrants dans telle ou telle ville. On comprendra que les réfugiés qui rentrent au Québec, je le rappelle, en 2000, sont envoyés dans certaines villes au Québec. Actuellement, c'est 12 villes. Montréal en accueille un certain nombre sur les 2000, très peu, une centaine. Les autres sont envoyés un peu partout au Québec. Et Drummondville fait partie des 12 villes de destination. Au centre du Québec, on peut parler de Victoriaville, mais pour en nommer quelques autres, il y a Gatineau, il y a... Il y a Québec, il y a Sherbrooke, il y a Trois-Rivières, il y a Joliette, Granby, Saint-Hyacinthe. Donc, à tous les ans, avec les partenaires du milieu, entre autres à Drummondville, ce qu'on a fait encore en janvier cette année, en janvier 2009, la table des partenaires s'est prononcée quant au nombre et à l'origine des réfugiés. Parce que on comprend qu'au Québec, cette année, on accueillera des réfugiés, un certain nombre de la Colombie, de l'Irak, des Bhoutanais, des Rohingyas. Et en regardant avec les partenaires de Drummondville, qui siègent alentour de la table, une vingtaine d'organismes, hein, la municipalité est là, la commission scolaire, le cégep, le RIT est présent, évidemment. Alors, on regarde ensemble la provenance et on a suggéré cette année, encore une fois, d'accueillir 90 réfugiés. Ça inclut les enfants, évidemment. 90 réfugiés à Drummondville et des gens qui viendront en partie de la Colombie, en partie de l'Irak et en partie de la République démocratique du Congo. Et il y a toute une panoplie de services qui fait qu'on accueille 90 réfugiés ici. Il faut comprendre que le nombre est important parce que si on veut accueillir 90 personnes, il faut mettre en place des services de francisation. Et c'est le cas, on a de la francisation au cégep et à la commission scolaire. Et les gens, ben, si jamais on décidait de baisser, il faut pas oublier que partir un groupe en francisation, ça prend un nombre critique, il faut avoir 15, 20 personnes. Donc, ça peut jouer dans l'attente de la francisation si on diminue, si on augmente trop. Donc, on essaie de maintenir des services. Il y a une capacité d'accueil de 90 personnes. Les services sont maintenus, sont fort bien arrimés ensemble. Les gens se parlent beaucoup via la table de concertation, voire même à l'extérieur de la table pour régler des problèmes en intégration d'emploi, régler des problèmes de niveau plus social, si on peut dire. Donc, il y a une mobilisation du milieu qui est là et des partenaires pour favoriser l'intégration de ces gens-là.
Donc, on peut dire que le milieu drummondvillois, une très grande concertation entre les différents organismes. Donc, ces gens-là sont pas laissés à eux-mêmes. Les organismes se parlent entre eux.
Finalement. Oui, oui. Ben, on a créé la table des partenaires en 2003. Et on a vu depuis 2003 l'arrivée de nouveaux projets qui ont permis de solutionner certaines problématiques. Ça a amené, entre autres, la signature de l'entente spécifique en immigration, des projets avec la Maison Marie-Rivier, avec le RID, avec différents partenaires là, qui ont développé des projets pour accueillir, pour intégrer les réfugiés et tous les immigrants d'ailleurs.
Si on va à une plus grande échelle, est-ce qu'il y a d'autres pays que le Canada qui accueillent les personnes de l'immigration humanitaire?
Oui, bien, principalement, outre le Canada, principalement l'Australie et les États-Unis. Donc, ils accueillent beaucoup, beaucoup de réfugiés. Donc, on comprend, on vient de nommer trois pays là qui sont assez bien nantis sur le plan économique. Donc, c'est, je dirais, c'est un devoir humanitaire quand on a un peu plus de biens que de partager avec d'autres citoyens de la planète, à mon point de vue. Ceci dit, je reviens sur des chiffres qui sont assez frappants. Quand on parle de 9 millions de réfugiés dans des camps, et c'est peut-être même plus là, au moment où on se parle ce matin, 9 millions de réfugiés et qu'il y en a 2 000 qui viennent au Québec, ben vous voyez, c'est un peu comme gagner à la loterie. Hein? Alors, et c'est assez dramatique. Mettez-vous dans la peau, vous êtes père de famille, mère de famille, vous avez des enfants, arrive un conflit, vous arrivez dans un camp de réfugiés sans vouloir aller là, mais par contre, vous êtes protégé. Règle générale, on est assez bien protégé. Et là, vous savez pas combien de temps vous allez passer là. Alors, entre autres, les réfugiés Rohingyas ou Bhoutanais, ils ont une moyenne de 17 ans dans les camps de réfugiés. Donc, ils sont arrivés là avec des enfants qui avaient connu la liberté, avaient connu le fonctionnement d'un réseau social ouvert. Et là, ils arrivent dans un camp avec une toute autre organisation. Et là, il y a des enfants qui naissent dans le camp. Donc, il est fréquent qu'on voit arriver des familles au Québec. Des enfants ont connu la télé, ont connu l'automobile, parce que le père est ingénieur, et ça, on le voit, là. Il n'y a pas de niveau social, là. On est réfugié, peu importe qu'on soit médecin ou paysan. Et là, des enfants qui naissent dans le camp, ils arrivent au Québec, ils n'ont jamais vu de salle de bain. Et ça, on voit ça. Une portion des enfants l'ont vu parce qu'ils sont nés ailleurs que dans le camp, et les autres, eux, n'ont pas connu ça. Alors, ils n'ont même jamais vu une cuisinière électrique, un frigo, tout ça. Ils connaissent pas ça, ils n'ont pas vu ça. Donc, ça demande une adaptation fort importante. Les partenaires sont là présents, dont le RID, pour faciliter l'intégration de ces gens-là, leur apprendre ce fonctionnement-là. Donc, souvent, on repart à zéro avec certaines personnes. Là, passer 17 ans dans un camp, essayez juste de vous imaginer ça. Là, ça peut être assez dramatique, effectivement.
C'est un choc, finalement.
C'est un choc. Et quand je le disais tout à l'heure qu'il peut arriver que les gens aient des besoins en termes même de santé mentale, d'accompagnement, parce que le choc post-traumatique, il peut être très, très fort, très prenant. Je parlais à des amis rwandais qui me disaient, tu vois, moi, dans mon pays, on était libre, on avait tout ce qu'il fallait. Et du jour au lendemain, rappelez-vous, en 94 au Rwanda, il y a eu 800 000 morts en 4 mois. Et quand on arrive il y avait des postes avec des gardes et carrément devant vous, votre voisin, vous connaissez, se fait assassiner. Ça a été beaucoup de gens, des témoignages de ce type-là. Parmi les Colombiens arrivés à Drummondville, plusieurs vous diront qu'ils ont perdu un membre de leur famille qui a été assassiné parce que tel groupe armé est débarqué dans le village et la famille ne voulait pas nécessairement collaborer. Puis bon, c'est assez expéditif, là, souvent comme moyen. Là. Donc, c'est ça la situation de ces gens-là. Là. On se pose pas souvent la question. On voit les gens, on peut même être porté à juger, mais si on prenait le temps, moi je dis, prenons le temps de s'asseoir avec les gens, demander pourquoi vous êtes ici, comment ça se passe, et puis d'entretenir le dialogue, de démarrer à tout le moins, de débuter pour... Et là, après ça, ben, on comprend mieux et on comprend pourquoi, en reculant, pourquoi nos ancêtres sont venus ici aussi. Et c'est souvent des raisons similaires, parce que je le dis tout le temps, c'est un peu simpliste, mais c'est vrai, nous sommes tous des descendants d'immigrants.
Ça, c'est certain. Oui. J'aimerais revenir, ça m'a accroché quand vous avez parlé justement de préjugés, de dialogue. L'immigration, l'arrivée de ces personnes-là dans les communautés québécoises, c'est sûr que ça fait jaser. Est-ce que vous pourriez défaire un peu les mythes qui existent autour de l'accueil et de l'aide apportée aux réfugiés?
Bon, en fait, ce qui est important de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de courriels haineux qui ont circulé. Les réfugiés, on reçoivent tant, ils sont mieux servis que la population générale. C'est tout à fait faux. Lorsque vous en verrez passer un, là, dites à vos amis qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Un réfugié qui arrive sur Drummondville ou n'importe où au Canada, s'il a besoin d'aide sociale, il n'y aura pas plus ni moins. Les paramètres de programme sont les mêmes pour tout le monde. Il n'a pas plus, il a la même chose, les mêmes montants. Alors, qui a un enfant, deux enfants, ça sera la même chose que pour une famille qui est née ici. Il n'y a pas de différence. On entend souvent, les gens, ils sont arrivés à l'OMH, ils ont eu un logement avant moi. C'est pas vrai. Les familles, ils attendent. Ils sont obligés d'attendre un an comme les autres. Donc, il n'y a pas d'avantage particulier pour les réfugiés. Ils attendent pour leur place en garderie. Ils doivent même rembourser le billet d'avion qu'ils ont amené ici. Et ça, dès les premiers mois qu'ils arrivent ici, qu'ils soient à l'aide sociale ou non, ils doivent faire signer une entente pour le remboursement du billet d'avion qui les a amenés au Québec. Et comme tout le monde, ces gens-là veulent refaire leur vie, gagner leur vie. Et quand ils arrivent passer une entrevue, dites-vous une chose, ils n'ont pas plus d'avantages que les autres. Comme je disais tout à l'heure, l'employeur lui va embaucher la personne pour sa compétence. Et nos partenaires d'Emploi Québec nous annoncent à tous les ans, vous savez, les perspectives professionnelles et les besoins de main-d'œuvre pour les prochaines années. Et on comprend que les besoins de main-d'œuvre sont très, très importants dans la région, surtout à Drummondville. Et on a besoin de cette population-là immigrante pour combler les besoins de main-d'œuvre actuellement et dans les prochaines années. Il y aura tellement de départs à la retraite qu'on a besoin des personnes immigrantes. Lorsque vous mangerez du blé d'Inde bientôt, pour défaire un autre mythe, posez-vous la question, il serait peut-être dans ce cas-ci, c'est pas un réfugié, mais un travailleur saisonnier mexicain qui sera venu au Québec pour casser le maïs dans le champ et puis qui fait qu'on peut le manger. Il rentre, je pense, tout près de 6 000 travailleurs saisonniers. C'est une immigration temporaire, mais pour vous démontrer à quel point on a besoin d'immigration, c'est qu'on n'est pas capable de combler ces besoins-là. Nos fruits et légumes pourriraient dans le champ là, si on n'avait pas les travailleurs saisonniers au Québec pour venir faire la cueillette. Il n'y a pas de Québécois qui font ça actuellement, ou très peu, je dirais pas, mais très peu, là. Ouais.
Justement, vous venez de parler, on accueille ces gens-là viennent ici pour travailler. Pouvez-vous nous présenter le profil des personnes qui se sont établies à Drummondville au niveau de l'emploi, au niveau de, est-ce que c'est une proportion plus grande d'hommes, de femmes, d'enfants?
Je dirais qu'il y a une répartition assez égale au niveau des réfugiés. Là, l'écart n'est pas très grand, le nombre d'hommes et de femmes, mais il y a quand même une bonne, je pense, une égalité entre les hommes et les femmes. Maintenant, chez les réfugiés, j'en parlais tout à l'heure, il y a de tout là-dedans. Il y a des gens qui ont de la formation en médecine, il y a des gens qui sont des paysans, il y a des gens qui sont garagistes dans leur pays, il y a des gens qui sont avocats, notaires. Donc, c'est pas clair, c'est pas coulé dans le béton. On fait pas rentrer des réfugiés soudeurs parce qu'on a besoin de soudeurs. On fait rentrer un réfugié parce qu'il est en détresse dans son pays. Donc, ces gens-là peuvent occuper différents emplois selon leurs compétences en faisant des mises à niveau, en retournant aux études. Je sais qu'il y en a plusieurs, la plupart d'ailleurs font en francisation, les réfugiés. Et par la suite, maintenant, je sais que plusieurs poursuivent les études au cégep ou à la commission scolaire dans différents métiers pour s'intégrer encore plus facilement au marché du travail. Souvent, des gens qui ont fait des études universitaires dans leur pays et qui acceptent de retourner aux études à l'âge de 30, 32, 33, 34, 35 ans et de refaire un AEC au cégep, ça prend de la volonté. On a des enfants à la maison, il faut apprendre la langue. Très complexe aussi de suivre un cours là, où le professeur parle très rapidement. Et donc, ça demande une grande persévérance, une grande volonté. Moi, c'est des gens, je lève mon chapeau devant ces gens-là.
Pour terminer, M. Martel, j'aimerais demander à l'agent du MIC de sortir de sa peau et de me dire, pour vous, qu'est-ce que représente l'immigration humanitaire?
Bon, en fait, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Pour moi, l'immigration humanitaire, c'est... En fait, les grandes valeurs de la société sont des valeurs humaines, hein, de partage, de respect de l'autre. Et je pense, comme société... Et je vais le dire à mon nom, là, c'est une question de donner sans trop compter, en se disant que de toute façon, plus tard, ces gens-là seront assez, ils vont nous remettre ce qu'on a donné, puis on n'est pas obligé de le demander, ils vont nous remettre, ils auront participé au développement de notre collectivité, de notre société. Alors, je pense que c'est une question d'ouverture, c'est une question d'accepter l'autre, de s'ouvrir à l'immigrant qui nous vient de l'immigration humanitaire. C'est, à mon point de vue, essentiel que comme société, comme pays bien nanti et riche, on soit capable d'accueillir des gens qui nous viennent d'ailleurs comme ça. Et ces gens-là ont connu dans leur pays où des problèmes de guerre, des problèmes d'opinion. Il y a des pays où on ne peut pas dire notre opinion. Et il y a un ami qui me disait récemment, tu sais, Luc, on est en train de manger autour d'une table, on est au Québec, on peut donner notre point de vue ici autour de la table sur n'importe quel sujet. On peut boire du bon vin en mangeant, la table est garnie. Alors, quand on est dans une situation semblable, on fait partie des 18% de la population mondiale. Donc, quand on part de cette prémisse-là, on se dit, ben, est-ce qu'on peut partager aussi avec l'autre? Et je pense que oui. Et non seulement on peut, mais on a l'obligation de le faire.
Bien, je vous remercie beaucoup de cette belle entrevue, M. Martel.
Plaisir.
Et maintenant, nous passons en chanson avec « Parce qu'on vient de loin » de l'artiste Corneille, lui-même réfugié rwandais.
Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser, tu sais. Nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passé nous laisse vider un certain. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Comme le dernier, et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh, oh, oh. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Quand on ne vit que sur des prières, moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier, et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Jour après jour, on voit qu'on...
pendant qu'on peut encore le faire, mes chers. Alors on vit chaque jour comme le dernier, chaque jour, chaque moment. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez, si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de là. On vit chaque jour comme le dernier, et vous feriez pareil si seulement vous saviez.
Dans notre prochaine émission, les premières générations d'immigrants. Où en sont-ils aujourd'hui? Eh bien, c'est sur ça que se termine notre émission cette semaine. Je vous dis merci à tous d'être à l'écoute et à la semaine prochaine.
CJRD 88.9 FM vous a présenté « D'ici d'ailleurs ». Un voyage sonore à la diversité culturelle. Une production du regroupement interculturel de Drummond.